Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale, hein? Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Ah. Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère.
Qu'est-ce que c'est que ça dans le chariot, là, à vos pieds?
Ça? Vous voyez pas, ça, c'est un pétard, hein?
Un pétard, il a un pétard.
C'est à vous?
Oui. Je lui ai foutu un coup sur le cassis à l'autre cinglé pour lui faire lâcher prise.
T'as les papiers?
Oui, il est tard. Vous voulez les voir?
Plutôt, oui. Bon, vous vous appelez...
Burman, Nestor.
Et vous êtes...
Flic privé.
Détective.
Vous en êtes encore là?
Je vois que vous avez un port d'armes.
Oui, monsieur, oui.
Je garde quand même votre revolver pour l'instant. Et j'aimerais bien que vous me racontiez ce qui s'est passé.
Il n'y a pas grand-chose à dire. Je suivais une fille et... Tiens, à propos, qu'est-ce qui lui est arrivé à elle? Oui, la jeune femme en bleu, la passagère.
Elle s'est évanouie.
Oh, je craignais pire. Oui, ça a dû être de nous voir nous bagarrer, quoi, la fosse. C'est à cause de ses jambes, tout ça. Je la suivais. Elle grimpe dans le grand 8. Je grimpe derrière elle. Un type a dû s'installer dans mon dos sans que j'y prête attention. On démarre. En abordant le tournant dans la grande pente, je sens le gars de derrière qui me saisit à bras-le-corps, comme si j'étais Brigitte Bardot en personne. Oh, pas par Béguin, non. Il essayait de me balancer par-dessus bord. Ah, je réagis. On se donne ça, je cogne avec ma crosse, et le gars se fait éjecter au virage suivant. Après ça, j'ai forcément eu une réaction, quoi, des jetons rétrospectifs. J'ai fait comme la fille, je suis parti dans les pommes. J'ai vaguement entendu parler d'un mort tout à l'heure. Si c'est pas moi, ça doit être lui.
Tout juste.
Je pourrais le voir.
Ah, si vous avez le cœur suffisamment mis en place.
Ouais, ouais.
Il est tombé de 30 mètres de haut. C'est pas joli, joli.
Cet ange gardien avait raison, c'était pas joli, joli, non. En tout cas, je n'avais jamais vu mon agresseur. C'est ce que j'expliquais au commissariat du 12e, mon ami Fleurimont Farou, le chef de la section centrale criminelle à la PJ, accouru de la tour pointue pour me sauver ou pour me perdre.
Bah, de toute façon, je me portais garant de Burma, inutile de le retenir.
Merci, Fleurimont.
Ce type, le mort, qui était-ce?
Un nommé Roger Lancelin, né à Meaux en 1918. Représentant, domicilié à Marseille. Si j'en crois sa carte d'identité. Entre nous, elle n'a pas l'air fameuse. Le portefeuille contient une assez forte somme d'argent. C'est tout.
Ouais. Et la fille, celle qui s'est évanouie?
Simone Blanchet, 25 ans, célibataire, rue de la Brèche au Loup. Elle est revenue à El Arochid où l'on l'a transportée. Plus de peur que de mal.
Dis donc, vous êtes sûr que c'est elle que vous suiviez, Burma, et pas le type?
Oh, hein? Désolé, Farum, c'est pas mon genre.
Oh, vous me comprenez, hein?
Mais je n'ai jamais vu ce gars-là. Ça devait être un cinglé.
Oui, j'y ai pensé. Ce n'est pas le premier accident à la foire du trône.
Ah?
L'an dernier, une autre fille est tombée du grand 8.
Sans blague.
Elle a été seulement blessée.
Vous avez entendu parler de Matouchka, commissaire? Le Hongrois Sinok qui faisait sauter les trains.
Eh ben...
Un accident de chemin de fer, tout ce qu'il y a de plus régulier, lui avait donné le goût du déraillement. Notre Lancelin, c'est peut-être aussi un gars qui déraillait. L'an dernier, par hasard, il assiste à la chute de la jeune fille dont vient de parler votre collègue. Ça lui fait de l'effet. Alors cette année, il y met du sien.
Et par hasard, ça tombe sur vous, hein? Quand est-ce qu'il vous arrivera plus rien, Burma? Je peux même pas vous dire de ne pas bouger de chez vous, les catastrophes viendraient vous trouver à domicile.
À Paris... Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui se sourit. Tout ça parce qu'il s'aime à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent des fonds, les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent Paris n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où il y a encore l'agent. Des taxis au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains et qui est là depuis le matin. Au café, il y a la Seine à n'importe quelle heure. Elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer.
Et puis un beau jour, alors c'est là qu'apparaît le genre de lettres et la vanité de l'auteur, je me suis dit, mais puisqu'on me dit, parce que je faisais lire autour de moi les bouquins quand ils étaient publiés, toujours je distribuais assez aisément à mes amis, j'ai dit, mais puisque on trouve ce que tu fais pas trop mal, est-ce que tu ne pourrais pas en écrire un sous ton nom? Et c'est là que j'ai écrit un bouquin qui s'appelait 120 rue de la Gare, où j'ai mis en scène un personnage de détective privé dont on m'a dit qu'il n'existait pas l'équivalent en France, mais là, moi, je demande encore à voir, car les gens qui me disent ça n'ont pas travaillé, n'ont pas été le nègre d'un maître chanteur analphabète comme je l'ai été, moi, dans l'orbe duquel gravitaient des personnages très troublants, et notamment des détectives privés. Bon, alors, pour en revenir à ce détective privé, je l'ai appelé Nestor Burma. Je ne sais pourquoi, on m'a posé sans voix la question. Je n'en sais rien.
Et vous avez une idée d'explication là, qui est dans les cahiers du silence.
Oui, mais elle est un peu longue à fournir. Mais c'est-à-dire, c'est ça, oui. Le premier chapitre de Fu Manchu s'ouvre la nuit chez le docteur Petri. C'est la nuit, il y a le brouillard. Enfin, c'est le Londres tel qu'on le voit comme ça dans les romans policiers. On sonne à la porte, le docteur Petri va ouvrir. Et il voit devant lui un personnage engoncé dans un pardessus, la pipe à la bouche, et il s'exclame « Nayland Smith de Burma ». Car cet homme venait de Birmanie, et le traducteur n'avait pas jugé utile d'écrire de Birmanie. Il s'était imaginé que Burma, c'était une ville ou je ne sais quoi. C'était sonore, oui. Nestor, ça faisait également sonore, et le tout faisait, nous revenons encore à quelque chose, le tout faisait baraque foraine. Baraque foraine et ses peintures idiotes qui était tellement prisé par Arthur Rimbaud.
C'est donc pas... le surréalisme collait toujours.
Et alors, les romans policiers français, je n'étais pas un grand admirateur des romans policiers français, car je pensais qu'il y manquait quelque chose, il y manquait le décor.
Vous n'êtes pas tendre avec Stéman.
Je n'aime pas beaucoup, sauf les bouquins de lui qui se passent à Londres. N'entrons pas dans les détails surréalistes, les querelles de personnes.
Mais vous n'aimiez pas non plus, faisons vite le panorama, Maigret, parce que d'abord il existait, puis parce qu'un commissaire, ça vous plaisait
voilà,
pas, un commissaire.
Voilà.
Pour des raisons que nous avons déjà élucidées au cours des entretiens précédents, le commissaire, c'est quand même... ça a peut-être ses racines dans l'histoire Philippe Daudet, ça.
Ah, peut-être, oui.
On ne sait pas.
Non, je ne pouvais pas être Arsène Lupin, car il existait déjà. C'est-à-dire, alors, Arsène Lupin ne puis, Maigret ne daigne, Nestor Burma suit. Voilà. Alors, j'ai fait ce détective privé, qui évidemment est un petit peu littéraire, si l'on veut, mais enfin. Et je parlais du décor. Il n'y avait pas de décor dans les romans français. Il y en avait un peu de décor chez Siménon, mais enfin, on sentait qu'il était un peu plaqué.
Je me souviens d'un coin de rue aujourd'hui disparu. Mon enfance jouait par là, je me souviens de cela. Il y avait une palissade, un taillis d'embuscade. Les voyous de mon quartier venaient s'y batailler. À présent, il y a un café, un comptoir tout neuf qui fait de l'effet, une fleuriste qui vend ses fleurs aux amants et même aux enterrements. Je me souviens d'un coin de rue, aujourd'hui disparu. Je me souviens d'un triste soir, où le cœur sans espoir, je pleurais en attendant un amour de 15 ans. Un amour qui fut perdu juste à ce coin de rue. Et depuis, j'ai beaucoup voyagé, trop souvent en pays étrangers. Monde neuf, construction et démolition, vous me donnez des visions. Je crois voir mon coin de rue et soudain apparu, je retrouve ma palissade, mes copains, mes glissades, mes dessous muguet de printemps, mes 15 ans, mes 20 ans, tout ce qui fut et qui n'est plus, tout mon vieux coin de rue.
Didier Denax, aujourd'hui nous abordons un personnage de détective privé français, dû à la plume de Léo Mallet. Et c'est bien que nous abordions ce personnage avec vous, Didier Denax, parce qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte que les auteurs de romans noirs, ceux qui écrivent de nos jours, sont peut-être beaucoup plus marqués par le personnage de Nestor Burma que par ce que l'on a appelé le néopolar.
Dans l'écriture de Léo Mallet, il y a une reconstitution du Paris des années 30, 40 et après 50, qui est pratiquement aussi forte que celle de Simenon. C'est-à-dire il y a une science pour planter un décor qui est vraiment formidable. Il y a un personnage, alors là c'est pratiquement le seul qui ait gagné ce pari-là, Léo Mallet, c'est de faire un personnage de détective privé en France. C'est-à-dire que le détective privé a toujours été un personnage peu crédible dans le roman policier français. Là, il arrive à mettre un détective qui, avec sa secrétaire, avec son bureau et tout, qui arrive à complètement prendre pas dans le décor. Donc il y a ça chez Léo Mallet qui est fortement intéressant. Et il y a aussi l'irruption d'une certaine manière de la politique. Dans les premiers bouquins, ça va bien. Puis après, il y a des dérives chez Léo Mallet que chacun peut constater en le lisant. Mais dès le départ, il y a une volonté de parler des anarchistes, de parler du peuple de Paris, de parler de ce qui était les HLM de l'époque, la cité Jeanne d'Arc, par exemple. Et là, on a une vision d'un Paris populaire extrêmement précise et qui est quelque chose qui est assez rare dans l'écriture de romans noirs.
Léo Mallet.
N'importe quel type qui te proposera n'importe quoi. diamant, c'est pur, mais prends-les dans tes mains, jette-les par terre, tu verras, ils se brisent comme du verre. C'est Paris, à Paris rien n'est pareil. Tout a tellement changé que ce n'est même plus une ville. C'est juste une grande poubelle. La poubelle est pleine depuis si longtemps qu'il n'y a plus de place pour nos déchets à nous. C'est Paris, et à Paris y a rien à faire. Juste marcher dans les rues pendant qu'il fait jour. Et attendre, attendre qu'il fasse un peu plus chaud, qu'il fasse un peu d'amour. B.
Parce que moi, je n'aime pas être emmerdé, et alors j'aime pas emmerder les autres, voilà, c'est tout.
Est-ce que Jacques Tardy fait partie de vos amis ?
Mais bien sûr qu'il fait partie de mes amis, et ça fait peut-être plus d'un an qu'on ne s'était pas rencontrés.
Exact.
Ah, voilà. Et ben,
alors, merci, Antoine Midi.
Mais il faut dire qu'il travaille pour moi, parce que moi, je suis feignant maintenant. Maintenant, j'ai trouvé des gens qui travaillent
alors
pour moi.
Alors moi, j'arpente, moi. Voilà. Léo Mallet.
Il va en province.
Et moi, je vais sur place. Je vais sur place.
C'est-à-dire
que je refais l'itinéraire de Nestor Burma. Par exemple, là, je rentre de Lyon, parce que l'histoire que je suis en train d'adapter, 120 rue de la Gare, se passe à Lyon. Pendant l'occupation, en 1941, elle se passe à Lyon et à Paris, donc zone occupée. Zone libre, zone occupée, zone nono. Donc je vais sur place, j'arpente, je traverse des banlieues épouvantables, je fais des photos, je reviens, je classe les photos pour mettre en image les ambiances dans lesquelles, les lieux sur lesquels Léo Mallet et Burma se déplacent.
Alors Léo, comment s'est faite votre rencontre avec Tardy sur Brouillard au pont de Tolbiac?
Alors ça c'est encore mystérieux. Bon, il faut dire que moi maintenant je ne sais plus ce que je fais d'un quart d'heure à l'autre. Par exemple, moi, tout à l'heure, je vais sortir de chez vous, je ne suis pas foutu de me rappeler les propos que j'ai pu tenir. C'est pour ça qu'ensuite, peut-être des types ne seront pas contents, j'en sais rien, je m'en fous. Et je ne sais pas comment la rencontre s'est faite, mais je sais, vous savez, je ne suis pas un amateur de bande dessinée, moi, mais un jour passant...
Vous n'aimez même pas ça, beaucoup ?
Oui, mais là, je suis revenu un petit peu, là, mon jugement est moins tranché maintenant. Mais passant un jour devant la boutique de l'éditeur Casterman, j'ai vu des albums d'Adèle Blanc-Sec, et notamment le fantôme de la Tour Eiffel, comment c'est pas tout à fait ça.
Le démon de la Tour Eiffel.
Le démon de la Tour Eiffel. Et c'est le dessin qui m'a intéressé. Alors je me suis procuré cet album, pour la première fois de ma vie j'ai acheté un album de bande dessinée, et je me suis dit, ce type-là serait épatant s'il pouvait adapter un de mes bouquins. Je voyais vraiment mes bouquins illustrés par Tardy. Et puis ça a passé, je ne sais pas comment on s'est... Un jour on s'est rencontrés, je ne sais pas comment, et il s'est trouvé qu'il aimait bien Brouillard au pont de Tolbiac, alors...
Alors on va demander à Pierre Rosselin de nous passer un petit banc-titre sur cette bande dessinée Brouillard au pont de Tolbiac, afin que vous la commentiez tous les deux, parce que il y a un climat dans les dessins de Tardy, c'est ça qui vous a accroché, je crois, surtout, Léo Mallet.
On peut parler sur ces images?
Bien sûr, tout à fait.
Tardy a un pouvoir, je ne sais pas si... Il n'est peut-être pas d'accord avec moi, j'en sais rien. Tardy, il a un pouvoir. Même s'il copie servilement une photo représentant un pont, un paysage quelconque, son crayon y ajoute quelque chose.
Est-ce que vous partagez ce point de vue, Jacques Tardy ?
Tout à fait, tout à fait. Non, mais je veux dire, ce qui me passionne, c'est l'aspect repérage. Alors, il est bien évident que Mallet, dans sa série les Nouveaux Mystères de Paris, a situé chaque histoire dans un arrondissement. On ne sort pas de cet arrondissement et il utilise ce qu'on va trouver sur le terrain. Bon, et j'adore ça. Et quand je travaille, quand je fais Adèle Blanc-Sec, quand je travaille seul, que je suis mon propre scénariste, je procède un petit peu de la même façon, parce que bien souvent, ce sont les lieux qui vont me donner le point de départ de l'histoire. Je me dis, cet endroit m'intéresse, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à partir de cet endroit?
Mais alors, à l'origine, pour Brouillard au pont de Tolbiac, vous vouliez régler un compte avec le 13e arrondissement. Il se trouve que c'est votre ouvrage qui est certainement le plus apprécié du plus grand public.
Ah ben oui, parce que ce bouquin a paru pour la première fois en 1955 chez Robert Laffont. Et je réglais un compte avec le 13e arrondissement où j'avais été, en 1926, j'avais été assez malheureux et où je n'avais vécu que 3 ou 4 mois d'ailleurs. Alors j'ai écrit un livre pour régler un compte. Et d'ailleurs, je dis à la gitane, Benita Morales, je lui dis, fous le camp de cet arrondissement, on n'y récolte que des sales trucs, il faut foutre le camp de là. Plusieurs fois, au cours du roman, je dis, c'est un arrondissement à fuir. Bon, là-dessus, les années ont passé, et on a commencé à démolir le 13e arrondissement. Et alors certains vieux habitants de l'endroit ont redécouvert à ce moment-là, plutôt des jeunes gens, je crois, des jeunes gens qui n'aimaient pas beaucoup cette transformation. Peut-être des écologistes, je sais pas, une curieuse clientèle, Et quand ils ont lu Brouillard au Pont-Olviac, ils ont vu dans ce livre une défense de l'arrondissement, alors qu'au contraire, c'était une attaque.
Paris, on ne sait pas ce qu'on attend, mais ça n'a pas d'importance parce que ça ne viendra pas. C'est Paris, 1984, belle année. Nos parents veulent l'Espagne, mais qu'est-ce qu'il nous reste à nous? Le Liban? Oh, il fait trop chaud là-bas. Marc, ici il fait un peu froid. Mais ça, aucun radiateur au monde n'y peut rien. Il fait froid dans nos têtes. C'est pas Tokyo, Londres, New York ou Amsterdam, non. Non, c'est Paris. Et à Paris, y'a rien à faire. Paris, ville de nos rêves. La poubelle est pleine depuis si longtemps qu'il n'y a plus de place pour nos déchets à nous. Il reste rien à faire, juste marcher dans les rues. Marcher dans les rues et attendre qu'il fasse un peu plus chaud, ou qu'il fasse un peu plus jour, ou qu'il fasse un peu d'amour. Oh, ville de mes rêves, que diras-tu demain quand tu seras seul, pourri, des ruines un peu partout? Tu sais comment j'écris ton nom? B-A-R-I-S.
Extrait de Micmac Moshu Boulmich de Léo Mallet. Je ne la reconnus pas tout de suite à cause de l'absence de lunettes, mais je compris qu'il ne pouvait s'agir que de Yolande. Aussi morte qu'on peut l'être, elle gisait sur le divan dans la minuscule chambre sans fenêtre. Au niveau de son visage cireux et figé, une sorte d'autel était dressé, sur lequel brûlaient deux petits cierges, et dans une cassolette, des bâtonnets odoriférants. C'était de là que provenait cette odeur d'encens, ou assimilée. Et l'autre odeur aussi, en plus de celle des cierges, l'odeur d'un cadavre qui se décompose lentement. Tout autour de la couche funèbre étaient disposées des images et des objets de piété, et d'autres plus barbares, vagues, gris-gris ou amulettes, mêlant en un culte unique et sacrilège la religion chrétienne et des survivances d'idolâtrie. Yolande était morte. Restait à savoir de quoi. Et chez son amant, désespéré d'avoir perdu la jeune blanche qui avait répondu à son amour, l'homme primitif, remontant du fond des âges, avait fait craquer le vernis de la civilisation. Ou tout simplement était-il devenu toc-bombe, comme ça peut arriver à tout un chacun. Il n'avait pas voulu se séparer du corps. Je vis et compris tout cela en quelques secondes, car tout se passa très vite, et notamment là-bas, à la porte palière. J'entendis trois claquements secs et étouffés, terriblement caractéristiques. Puis un quatrième, plus fort. Celui-là, c'était une porte, mais pas les trois premiers. On ne faisait pas le détail aujourd'hui. Tout venait d'un coup, apporté par une grande vague. J'abandonnai la chapelle ardente et bondis vers l'entrée. La porte avait été refermée et quelqu'un dévalait l'escalier à toute pompe. Toussaint la nouvelle, debout dans les trois vestibules, soufflant comme un bœuf, mais n'exhalant aucune plainte, se comprimait le ventre de ses mains posées en éventail. Vision d'épouvantable cauchemar, le colosse, frappé à mort, fit mécaniquement un pas en avant, puis un deuxième, semblable à la statue du commandeur et aussi inexorable. La porte de communication était restée ouverte et la lumière de cet après-midi quasi printanier, calme, doux et paisible, m'éclairait en plein. Il m'aperçut. Si tant est qu'il fût fichu de distinguer quoi que ce soit du point où il était. Loin. Si loin déjà. Il détacha ses mains musculeuses de son ventre et il me sembla entendre le sang bouillonner, jaillir à grands flots de ses entrailles et dégouliner le long de ses jambes. Il tendit vers moi ses bras à la redoutable allonge. Ses bras de singe. Pétrifié, Je ne réalisais le danger que trop tard. Je sentis avec dégoût sa main poisseuse de sang se balader sur mon visage, chercher le cou. Dans un dernier sursaut de ce qu'il croyait être de la lucidité, de la connerie, oui. Il me supposait de mèche avec celui qui venait de l'assassiner. Je fis un effort pour me déplacer, échapper à l'affreuse étreinte. J'esquivai, mais pas suffisamment. Sa main dévia, retomba sur mon épaule. Ses doigts d'acier la grippèrent et se crispèrent, bien décidés à ne pas lâcher prise. C'est à ce moment-là qu'il dut mourir. Debout. Comme Emily Brontë. Seulement, il pesait bougrement plus lourd que la petite Anglaise. Ah, ok, le secoua, il s'abattit comme une masse m'entraînant dans sa chute et je me retrouvai sous lui. La mort saisit le vif. Je crois que c'est un principe de droit. Oh, Yolande. Et puisque je suis sur le chapitre des citations, avez-vous déjà giflé un mort? Demandait le poète Louis Aragon pour ne pas le nommer. Vous êtes-vous déjà colleté avec un cadavre?
Encore vous, Burma? Je vous préviens que j'ai du boulot, hein?
Grâce à moi. Et les barres d'or, Farou, vous les avez?
Et vous?
Ah, moi, je sais où elles sont.
Hein?
Elles sont enterrées dans le jardin de la villa de Saint-Mandé.
Ouais, Montolieu n'aurait pas entrepris de creuser la tombe de Simone dans un endroit impossible, truffé de cailloux, s'il n'y avait pas eu ailleurs, dans ce même jardin, quelque chose que, pour le moment, il ne voulait pas déranger.
Ouais.
Il y a 3 jours de cela, on a effectivement trouvé les 150 kilos d'or sous le gazon. Et je viens de toucher la fameuse prime. Ouais, il me faut bien cette récompense, puisque l'autre... J'ai cru bien faire en éloignant Chris, pour que les éclats de la bombe que je sentais près d'éclater ne l'atteignent pas. Foutaise. Les flics ont fouillé trop loin. Assez loin pour que Marthe Montolieu avoue avoir aidé son second mari à pousser un peu le premier dans le pinard. Et sa fille l'a appris là-bas toute seule. Pauvre petite Christine, trop seule. Si elle était restée ici, peut-être aurais-je pu la protéger contre elle-même. Mais j'ai commis l'erreur de rater son départ. Définitif maintenant. Je viens de le lire dans le crépuscule, que j'ai acheté à un kiosque de la gare de Lyon. Oui, je suis à la gare de Lyon. Hélène, ma secrétaire, revient ce soir de Cannes par le train de 17h05.
Thank you.
Taki, c'est mon frère. Oui.